si vous avez un truc qui vous anime réellement et qui vous fait kiffer, bah juste faites-le à fond et pensez pas au reste. Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Ne vous y méprenez pas, c'est la période de l'Euro et on va parler ballon de football, mais pourtant c'est une discipline bien différente que pratique notre invitée du jour. Johanna Dallier a 21 ans, mais elle est plus connue sous le nom de Johanna Freestyle, parce que la révélation du football freestyle, c'est elle. Double championne de France en 2019 et 2020, Johanna comptabilise 3,5 millions de followers sur TikTok. On a donc voulu savoir pourquoi le football freestyle plaisait tellement à la nouvelle génération et pourquoi cette discipline était devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, alors que ce sport reste encore aujourd'hui plutôt confidentiel. Johanna revient sur ses débuts et son amour inconditionnel pour cette discipline qui lui ont permis d'affronter les moments les plus difficiles de sa vie. Elle nous explique également pourquoi les femmes dans le freestyle football sont devenues tellement populaires alors qu'elles sont encore très largement minoritaires dans ce sport. Si vous pensiez que le football freestyle c'était faire trois jongles avec les pieds et la tête, on vous conseille fortement d'écouter ce podcast, vous risquez d'être surpris. Salut Johanna.
Hello.
Comment ça va?
Très bien et toi?
Bah écoute, moi ça va plutôt bien. On est super content de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Championne du Monde.
Mais je suis très contente d'être là aussi.
Et en plus, bon, effectivement, on est sur une petite actualité, l'euro en même temps, la déception. Comment t'as vécu? La première question qui n'a rien à voir avec le podcast, mais je suis obligée de te la demander, forcément, désolée.
Tu veux que je parte de suite en fait? Ouais. La déception est encore très grande, ouais, et le sujet est encore très sensible.
D'accord, bon, on va pas en parler. Comment mettre la bonne ambiance dès le début sur le podcast?
Non, ça va aller. Non, mais en vrai, je suis déçue comme tout le monde, je pense. Ouais. Mais je fais pas partie des gens qui ont retourné leur veste et qui crachent sur l'équipe. On les soutient quand ils gagnent, donc on les soutient quand ils perdent.
Je suis d'accord avec toi.
Donc voilà.
C'est juste triste parce qu'on avait envie qu'ils aillent loin.
Exact.
Et qu'ils nous fassent rêver comme ils nous ont fait rêver il y a 5 ans maintenant.
Ils nous feront rêver l'année prochaine, peut-être.
Exactement. Espérons. Allez. Le sujet est clos. Rentrons dans le vif du sujet. Du coup, Johanna, tu fais du football freestyle.
C'est ça.
Alors ma première question, alors avant de rentrer un peu dans ton palmarès et tout ça, j'aimerais bien que pour les gens qui écoutent le podcast, qui connaissent pas la discipline, tu puisses déjà dans un premier temps nous donner une définition peut-être un peu générale, générique, de ce qu'est le football freestyle.
Alors le football freestyle du coup c'est un sport et un art en même temps, qui consiste à réaliser des gestes techniques et des jongles avec un ballon de football. Donc par contre ça n'a rien à voir avec le football, le seul point commun du coup c'est le ballon. Et c'est inspiré du breakdance, du cirque et de la danse. Donc c'est un sport à part entière qui demande énormément de temps et d'entraînement. Ouais. Et qui est très cool.
J'imagine. On y reviendra effectivement, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression. Et moi, la première, hein, franchement, pour tout dire au début, qui faisait un peu l'amalgame avec le foot. Parce que bah, t'as le mot football aussi forcément dans ta discipline.
C'est ça, le problème.
Voilà. Donc forcément, on s'imagine peut-être des choses qui sont pas vraies. Ma deuxième question, du coup, ça va être, est-ce que tu peux me donner ta définition à toi, en fait? Parce que là, je te demandais, on va dire, une définition un peu générique de ce qu'est le football freestyle. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est pour toi, ce que c'est.
Pour moi, déjà, c'est un mode de vie. C'est même pas une passion, c'est clairement un mode de vie, parce que ma vie a totalement changé depuis. Et pour moi, c'est très... très artistique dans le sens où on est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est-à-dire que, ben, en fait, la seule contrainte, c'est d'avoir un ballon et un endroit où s'entraîner. Et juste de laisser parler son imagination et de pouvoir faire les gestes qu'on veut et les combos qu'on veut, etc. Donc, c'est très artistique et en même temps, ça demande, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il y a le côté sportif qui est quand même très, très...
Qui est présent, ouais.
Qui est présent, ouais. Et non, ouais, ma définition, c'est juste... je sais pas trop comment décrire ça, en vrai. C'est compliqué. On m'avait jamais posé cette question, j'étais pas prête.
Bah, c'est bien. Du coup, c'est le moment de dire.
Ouais, non, ma propre définition, je dirais que c'est un sport très artistique qui est juste trop kiffant et pas assez mis en avant, je trouve.
Ok.
Ouais.
Quand tu dis pas assez mis en avant, pourquoi c'est pas assez mis en avant?
C'est un sport récent, c'est un sport qui est pas hyper médiatisé encore, on va dire. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce sport.
Ouais.
Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de freestylers qui essayent de faire des choses sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on est là et qu'on existe, quoi.
Ouais, bah, j'y reviendrai parce que forcément, maintenant que je me suis mis un peu la tête dedans, j'ai pu voir qu'effectivement, en fait, il y avait une grosse communauté de freestylers,
ouais,
français principalement. Et du coup, j'ai plein de questions là-dessus après.
Pas de soucis.
Déjà, moi, j'aimerais bien qu'on revienne à toi pour qu'on apprenne à te connaître aussi un peu plus. J'aimerais bien savoir, toi, à la base, depuis que t'es petite, c'est quoi ta relation au sport?
Alors moi, j'ai fait énormément de sports différents. Je faisais tout comme mon frère, pour être honnête. Okay. Donc en fait, dès qu'il a commencé le foot, j'ai fait du foot. Ensuite, il a fait du karaté. Moi, j'ai essayé et j'ai fait du judo à côté. J'ai fait du basket, j'ai fait de la natation, j'ai fait du ping-pong, tennis de table. Pardon.
Yes. Pour les puristes,
attention. C'est ça. En vrai, j'ai touché un peu à tout. Et au final, je me suis raccrochée au foot parce que c'était le sport qui me plaisait le plus. Donc, j'en ai fait de 4 ans à 10 ans, il me semble.
Okay.
J'avais un assez bon niveau, je pense, pour mon âge. Et le problème, c'est que ça m'a vite dégoûté le fait que, justement, les filles n'étaient pas forcément mises en avant dans ce domaine-là. En tout cas, quand j'étais petite, je pense que là, ça a un peu évolué, même si c'est toujours pas incroyable. Mais du coup, ça m'a vite dégoûté. Et en fait, à 15 ans, je faisais plus du tout de sport. Et j'ai voulu reprendre le foot parce que c'était le sport qui m'avait le plus marqué. Et il se trouve que du coup, mon ancien entraîneur de foot m'avait dit « Va à Toulouse, il y a des tests de recrutement pour entrer dans un lycée qui avait option foot. Tu vas les faire et on va voir si t'assures. » Ça faisait 5 ans que j'étais pas sur un terrain de foot. Donc j'y suis allée et en fait, il y a un moment dans ces tests...
T'avais pas du tout fait de sport entre tes 10 ans?
Quasiment pas. Au collège, les trucs qu'on fait avec l'UNSS, etc. Ouais. Mais ouais, pas trop, quoi. Et non, j'étais plus sur des pianos, échecs, ce genre de trucs un peu plus... Le sport, j'avais mis un peu de côté. Et non, du coup, à ces tests, souvent, on vous demande de faire 50 jongles du pied droit, du pied gauche et de la tête. Et ça, c'est le truc que je raconte souvent. Parce que moi, j'avais fait 6, 4 et 2, un truc comme ça. Et donc, en fait, j'avais été vexée parce que j'avais compris que j'étais pas du tout technique. Et en arrivant chez moi, j'avais pris mon ballon et j'avais commencé à jongler. Et jusqu'à vouloir apprendre un tour du monde. Donc, c'est un geste basique qu'on apprend dans cette discipline, du coup, le freestyle foot. Et je suis tombée sur une vidéo de freestyle foot sur YouTube, compilation avec tous les meilleurs mondiaux et tout. Et quand j'ai vu ça, je sais pas, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais le foot, non, en fait.
Tu connaissais pas du tout ça, la discipline avant de regarder.
C'est la première vidéo que j'ai vue de freestyle foot.
Ok.
Toute première.
Et t'en avais jamais entendu parler avant alors que tu t'intéressais en plus?
Jamais.
Alors, encore une fois, on a dit que le foot et le freestyle foot, c'est pas la même chose. Mais
c'est quand même un peu lié dans le sens où il y a le ballon de foot en commun, quoi. Mais non, j'avais déjà vu des joueurs de foot comme Maradona, Ronaldinho faire des tours du monde ou quoi, mais je savais pas qu'il y avait une discipline derrière où il y avait des gens qui s'entraînaient 3 à 5 heures par jour pour faire que ça, quoi.
Et à quel moment ça t'a fait tilt? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que tu t'es dit, en fait, j'ai trop envie de...
Je sais pas comment l'expliquer, dans mon cerveau, ça a vraiment fait une sorte de switch total.
Il y a eu un déclic, t'as allumé un bouton.
Et je te jure, j'ai trouvé ça incroyablement beau et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça. Et je me suis matrixée dans ma tête à me dire, mais je vais faire que ça, en fait. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait que ça, pour de vrai, premier degré, du coup.
C'est fou. Et à aucun moment, ça a été... Parce que des fois, t'as des périodes dans ta vie où t'as un peu des lubies, tu fais à fond dans un truc, et au bout d'un moment, tu te lasses un peu. Toi, ça t'est jamais passé, quoi?
Jamais. Jamais du tout. Et pourtant, il y a eu des blessures, il y a eu des trucs où vraiment, je me disais, c'est compliqué, mais... En fait, je pense que c'est parce que j'avais que ça, et du coup, je me suis accrochée à ça, en mode, go, faire à fond, en fait.
C'est fou.
Ouais.
C'est fou. Et du coup, on est 6 ans plus tard et c'est devenu ton métier.
Exact.
Maintenant. Est-ce que tu avais, alors là c'est une question un peu à part, mais est-ce que tu avais des idoles d'ailleurs quand tu étais petite?
Quand j'étais petite ou quand j'ai commencé le freestyle?
Quand tu étais petite déjà, et après dans le milieu du freestyle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi est-ce qu'il y a des masters, est-ce qu'il y a des maîtres de la discipline? Comment c'est un peu structuré aussi? Parce que toi-même, tu disais quand tu as commencé il y a 6 ans, tu savais même pas que cette discipline existait.
Ouais.
Comment tu t'es lancé là-dedans? Est-ce qu'il y avait vraiment des mecs qui étaient des références là-dedans? Est-ce que comment ça s'est passé, toi aussi, ton apprentissage?
Alors, du coup, il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais pas forcément d'idole, à part des acteurs, genre Will Smith ou quoi, mais ça, ça n'a pas bougé. Et non, quand j'ai découvert le freestyle foot, il faut savoir qu'après cette vidéo compilation qui m'a fait tilt, j'ai regardé des tutos pour apprendre, parce que sur YouTube, on peut en trouver plein. On écrit « apprendre le tour du monde » ou « apprendre le crossover », qui est un geste de freestyle. Et on tombe sur des tutos et j'étais tombée sur un freestyler qui s'appelle Gauthier Fayol, donc avec qui je suis amie maintenant. et qui est 7 fois champion du monde en routine. Routine, c'est une catégorie où on arrive, on fait un show sur 2-3 minutes préparé, etc. Et donc, ce monsieur faisait des tutoriels à l'époque sur YouTube. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'entraîner. Je regardais des tutos, j'apprenais et je faisais de plus en plus de gestes. Et il se trouve qu'après, comment ça s'est fait ? Ben, j'ai commencé à faire de plus en plus de gestes, de plus en plus d'enchaînements. Et je me suis dit, je vais les poster sur les réseaux pour avoir des souvenirs. C'est vraiment le truc que je me disais. Je me disais, je les mets sur Insta et comme ça, dans un an, si je progresse, je verrai mes tout débuts, etc.
T'étais déjà sur les réseaux avant ou t'as lancé
J'avais Instagram pour mes potes et tout, mais voilà quoi, comme tout le monde. Mais non, du coup, ça a commencé en 2017, je crois, où j'ai commencé à publier. Et du coup, là, j'ai fait la rencontre d'autres freestylers qui sont venus me parler pour me donner des conseils, pour m'encourager, etc. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. C'est juste en parlant avec d'autres personnes qui pratiquent, qui m'ont appris des choses, du coup, forcément, des noms de gestes. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent « tous les gestes en un an ?» Oui. Et ça peut paraître très compliqué, mais comme dans beaucoup de sports, comme la trottinette freestyle, par exemple, il y a tout qui a un nom. Et du coup, c'est juste à force d'en parler, à force de rencontrer des gens. J'ai fait mes premiers meetings. Donc, c'est des événements qui sont créés pour que tous les freestylers se rencontrent et partagent des moments ensemble. Mes premières compétitions. Et c'est là, en fait, que tu comprends ce sport, que tu en apprends un peu plus dessus et que du coup, tu es forcément de plus en plus passionné, quoi.
Mais ouais, comment ça s'est passé après, ton évolution ?
Justement, comme je t'ai dit, je publiais des vidéos et j'avais appris du coup qu'il y avait un groupe de freestylers. C'était sur Facebook à l'époque, Actu Foot Freestyle, ça s'appelait.
Alors, Facebook existe toujours.
Ça existe toujours. Mais c'est vrai que je ne vais plus sur ce groupe, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et c'était un groupe où souvent les freestylers publiaient des vidéos pour, comme je l'ai dit, avoir des avis, etc. Il se trouve que je me suis fait 2-3 potes. Et donc on se motivait l'un l'autre. Dès qu'il y en avait un qui faisait un nouveau geste, on le disait « Ah, c'est bien, maintenant tu peux faire ça, ça et ça. » Et c'est un peu comme ça qu'on s'est poussé. Et au final, en 2016-17, j'ai découvert un crew justement parce qu'il y a, en vrai, le freestyle c'est un sport individuel, mais il y a des crews en France, il y en a 4-5. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens, ça va pas plus vous faire vous développer ou quoi, mais juste vous enrichir dans le sens où voilà, vous êtes avec des potes. Enfin, en tout cas, moi, mon crew, c'est ça, c'est juste un crew de potes qui s'entraînent ensemble. Et il n'y a pas de but professionnel entre nous, tu vois, c'est juste, voilà, on a créé ça, on est potes. Mais du coup, voilà, ce crew, donc Streetlights, dans lequel je le découvre en 2016-2017, et je les trouve juste trop forts. Moi, je commence et je vois ça, je me dis, waouh, mais inatteignable pour moi, tu vois, à ce niveau. Et du coup, je me souviens, je les contacte, je leur dis, les gars, j'aime trop ce que vous faites et tout, est-ce que je pourrais rentrer dans le crew un jour ? Vraiment, je jette une bouteille à la mer comme ça, quoi. Et en fait, Brian, du coup, la personne qui avait créé ce crew, me répond « Attends, j'en parle au gars, je te dis. » Vraiment, chill. Je me dis « What ? » Ok. Il m'envoie un message une heure plus tard. « Oh, on en a parlé, c'est bon, bienvenue. »
Voilà. Ok.
Ça s'est vraiment fait comme ça. Et il se trouve que ça s'est fait en... Je crois que c'était 2016. Hein. Et il se trouve que ça s'est fait une semaine avant des championnats de France, qui se déroulaient à Lunel, à côté de Montpellier. Et donc, les gars du crew m'envoient un message, ils me disent « Viens, comme ça, on se rencontre là-bas. » Moi, j'ai 16 ans, je suis jamais partie de ma petite ville. Mes parents ne voudront jamais. Et du coup, je me dis, bon, je vais quand même essayer d'y aller, quoi, parce que j'avais très envie et que voilà, c'était ma passion. Et donc, mon frère m'a aidé financièrement pour que je puisse m'y rendre. Et j'ai rencontré le crew et il y a eu un gros feeling. On s'est tous très bien entendus. Et après, une semaine après, j'allais à Marseille les voir, parce que c'est des Marseillais, très souvent pour m'entraîner avec eux. Et c'est là, je pense, que ça a vraiment débuté pour moi, dans le sens où c'est là que je me suis dit...
C'est devenu concret.
C'est très concret et c'est peut-être un sport que je vais faire pendant très longtemps. Parce que au début, c'était plus un hobby que je faisais. Même si j'adorais ça, je me disais pas que ça allait aller aussi loin et que j'allais atteindre ce niveau jamais de la vie.
Ouais. Parce que, donc, on n'a pas dit que tu viens du sud de la France.
Ouais, du sud-ouest. Ouais.
Et tu habites à Lyon maintenant.
Exact.
et quand tu as commencé, du coup, vers. Alors, j'étais un peu regardée parce que tu as une chaîne YouTube que je recommande aux gens d'aller voir si ça vous intéresse de vous renseigner un petit peu plus. Écoutez quand même la fin de ce podcast. Hein.
Ne partez pas.
Mais effectivement, je crois que t'as aussi commencé le football freestyle à un moment donné de ton adolescence où c'était un peu compliqué.
Très compliqué, ouais.
Où tu t'es retrouvée un peu toute seule.
C'est ça.
Est-ce que aussi le fait de commencer cette activité-là, ça t'a permis aussi de te sentir moins seule, en fait, finalement ?
Exact, mais c'est totalement pour ça, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, que j'avais rien, entre guillemets, et donc que je me suis raccrochée à ça, parce que c'était le seul truc qui me faisait trop du bien à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Et je pense que c'est ça qui a fait que je suis allée aussi loin, au final.
Hein. Alors, c'est compliqué de dire, parce qu'avec des six, toujours... Tu penses que si, effectivement, il n'y avait pas eu cette rencontre avec cette discipline-là, avec ce sport-là, ça aurait été plus...
Je pense que ma vie serait très triste aujourd'hui, honnêtement, ouais. C'est sûr à 100% même.
Est-ce qu'il y a eu un espèce de truc c'était assez compliqué avec ta famille. Est-ce que finalement aussi, ça a été un peu le moyen pour toi de, genre, de créer ta propre famille, genre la famille que tu avais choisie?
C'est exactement ça. Mais d'ailleurs, c'est très drôle que j'ai dit ça parce que c'est ce que je dis à tout le monde. Il y a la famille qu'on ne choisit pas forcément et il y a la famille qu'on choisit avec nos amis ou des proches, quoi.
Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi la rencontre avec un sport? Parce que tu as l'aspect sportif et tu as l'aspect social. Et souvent, enfin, moi je trouve, en tout cas, c'est ma vision, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais tu as les deux aspects qui sont indissociables. Et le fait aussi de se sentir bien dans un sport, c'est aussi le fait de trouver des gens avec qui tu as les mêmes valeurs.
100% d'accord avec ça. Mais réellement, genre mon cercle d'amis à l'heure actuelle, c'est que des freestylers. C'est des gens que j'ai rencontrés grâce à cette discipline et c'est des gens que j'ai choisis parce qu'ils me tirent vers le haut et parce qu'on se tire vers le haut ensemble.
Il y a un aspect, finalement, quand on parle de sport aussi, tu as souvent l'aspect compétition, forcément, qui est un peu indissociable du sport. Comment se structure, toi, dans tes disciplines, la compétition? Parce qu'il y en a.
Ouais.
C'est une vraie discipline, c'est comme un vrai c'est un sport, quoi.
Ah oui, clairement.
Donc vous êtes structuré, je crois qu'il y a une fédération même qui...
Il y a une fédération, elle est non officielle, mais il y en a une, WFFA International. Et en France, on a une association qui s'appelle Foot Freestyle France.
Okay.
Et qui sont juste là pour justement mettre en place des compétitions, des meetings et ce genre de choses.
Ok. Et donc toi, t'es deux fois championne de France, je ne l'ai pas précisé au début, mais en 2019 et en 2020.
C'est ça.
Comment ça se passe, les compétitions? Est-ce qu'il y a des championnats de France, forcément, parce que je viens de dire que c'était championne de France, des championnats du monde. Comment c'est structuré tout ça? Est-ce que tout le monde peut y participer? Est-ce que vous avez des classements aussi à l'international?
Alors, c'est très complexe.
Okay.
Mais je vais t'expliquer le plus simplement possible. Dans le sens où on a un championnat de France par an et une Coupe de France par an. Donc, tu peux être deux fois champion de France en un an.
Ok,
déjà. La Coupe de France, c'est une compétition organisée par Foot Freestyle France, qui n'est pas tous les ans, parce que ça dépend de si l'asso arrive à avoir du budget et des sponsors ou non, forcément. Et c'est là que c'est un peu compliqué dans ce sport. Donc la Coupe de France, ça a pour but de nous entraîner au championnat de France. Et donc c'est un truc très bienveillant, créé par FAL, donc le président de l'asso, qui fait ça pour qu'on puisse s'entraîner et pas arriver à une compète importante sans forcément avoir été sur scène avant, etc. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que vu qu'il y avait les mêmes personnes et tout, c'était un championnat de France bis. Donc, on l'appelle juste Coupe de France, mais c'est un peu la même chose. Il y a les championnats de France qui sont sponsorisés par Red Bull chaque année. Et qui, là, sont un peu plus importants parce que il y a une catégorie féminine, une catégorie masculine. Et celui qui va gagner dans la catégorie masculine aura un ticket pour aller au championnat du monde sponsorisé par Red Bull, donc le RBSS. Du coup, pour parler des championnats du monde, il y a ce fameux RBSS qui est en fin d'année à chaque fois. Et qui, hors période Covid, normalement se fait sur sélection de tous les champions de France ont leur ticket pour y aller, pour les garçons. Pour les filles, c'est différent parce que vu qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de filles, nous, on fait ça par vidéo. Donc, on envoie toute une vidéo en juillet. Et là, c'est deux semaines de qualif intense où on doit envoyer plein de vidéos, faire des battles l'une contre l'autre en vidéo qui sont jugées par des juges, du coup. Et là, c'est très sélectif dans le sens où ils vont prendre 64 mecs, donc ceux qui ont gagné dans les pays, etc., voire 32 quelques années. Et les filles, ça sera que 8. Donc, c'est les 8 meilleures filles mondiales.
D'accord.
Donc là, c'est très sélectif, pour le coup.
Et pourquoi c'est une question bête, mais pourquoi que 8 chez les filles?
Alors là, ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse.
Okay. Parce que tu dis, c'est un peu, ils sont une trentaine ou une soixantaine chez les mecs.
Il y a beaucoup plus de garçons que de filles après qui en font. Donc forcément, ça serait compliqué d'avoir 60 filles, en tout cas. Et ça serait long aussi, sur scène. Je pense qu'on privilégie du coup les garçons aux filles d'un sport parce qu'ils sont en supériorité numérique.
Okay.
Voilà. Mais et après, il y a les championnats du monde à Prague, chaque année en août, depuis 2011. Ça a été créé du coup par un ancien freestyler qui s'appelle Lucasso. Et ça, c'est un peu pour les puristes, les vrais championnats du monde, dans le sens où c'est ouvert à tous. En 2019, par exemple, on était 600 à participer, à peu près.
D'accord.
Donc c'est très cool parce que c'est une semaine entière à Prague où on est tous dans le même hôtel. Et où la compète se déroule du coup juste à côté de l'hôtel ou voire même dans l'hôtel en 2019. Et donc, c'est une semaine tous ensemble à partager notre passion ensemble, à faire des nouvelles rencontres, à rencontrer des nouvelles personnes, etc. C'est exactement ce que je veux dire. Mais voilà, donc c'est trop cool et c'est un peu la semaine de vacances que tous les freestylers kiffent dans l'année, quoi.
Quand tu dis tout le monde peut s'inscrire, c'est tout le monde peut s'inscrire.
Tout le monde peut venir.
Si moi, je sais faire deux jongles avec mon pied droit.
Tu peux. Après, est-ce que t'as envie de te faire juger par tous les autres freestylers?
Non, pas trop. Non, mais ok, c'est vraiment en fait, si t'as juste envie de kiffer et que t'as un peu. T'es pas très fort, mais que t'as potentiellement envie de te faire une expérience et de te tester.
Tu peux. Après, généralement, c'est vrai que tu participes à ce genre de compète quand tu te sens prêt et quand t'as envie de prendre une expérience. Voilà. Parce qu'en sachant qu'il y a des phases qualifs, comme dans tous les championnats, ça, du coup, je t'explique. Pour faire très bref, c'est un peu comme une compétition de break. Tu vas avoir des phases qualificatives. Donc, par exemple, si à cette compète, admettons, il va y avoir 200 mecs qui vont participer, ils vont faire des groupes de 4, où genre, ils vont prendre que les deux meilleurs des groupes, pour au final, à la fin, grâce à ça, avoir un top 32. Et là, le top 32, ça sera 1v1, donc une personne contre une personne, okay. 3 fois 30 secondes, exactement comme un battle de break. Donc, une personne passe 30 secondes, l'autre 30 secondes. Et à la fin de ces 3 fois 30 secondes, on est jugé sur plusieurs critères comme la musicalité, la créativité, le contrôle, le all-round. Donc, il faut qu'on fasse avec tout notre corps, en gros. Okay. Et voilà. Et okay. La personne qui gagne passe au tour suivant jusqu'à quart de finale, demi-finale, finale.
Mais d'ailleurs, justement, ça me fait rebondir sur une question, mais parce que j'ai l'impression que votre discipline, c'est une discipline, tu le disais au début, qui est hyper libre. T'as une liberté qui est folle, tu fais, entre guillemets, ce que tu veux.
C'est ça.
Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, du coup, d'avoir cet aspect compétition ?
Alors, justement, il y a des... ce que moi, j'appelle puristes côté art. Donc, des gens qui sont pas du tout là pour la compète et qui sont juste là pour chill avec leur ballon et kiffer. Moi, j'en connais beaucoup. Et il y a les gens comme moi qui étaient comme ça au départ et qui ont commencé la compète et qui se sont dit « Ok, il y a un truc en plus. » Tu peux faire de la compète et rester libre parce que dans les compétitions, au final, tu es libre de faire ce que tu veux, d'avoir le style que tu veux et de montrer aux gens ce que tu veux. Donc, au final, tu restes quand même... Tu perds pas ce côté liberté de ce sport, mais en même temps, tu as le challenge de la compétition et il y a des gens comme moi qui aiment beaucoup les challenges et du coup, c'est pour ça que la compétition est importante, je pense, dans ce sport.
Et est-ce que ça te permet aussi d'avoir une espèce de crédibilité en plus ?
Oui, 100%. Mais au-delà de ça, ça permet surtout d'avoir de la motivation et un objectif à atteindre. Et du coup, de te surpasser encore plus que si t'as pas forcément cet objectif-là, je pense.
Parce que toi, là, maintenant, t'es deux fois championne de France. Mmh. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'être championne du monde ?
Exact. Ça aurait pu arriver en 2019, mais il y a eu des petits soucis.
Ah ouais ?
Donc, espérons que ça arrive en 2021, là.
2019, c'est juste but. Parce que du coup, il n'y a pas eu de championnat.
Si.
Ah, il
si,
y a eu un championnat.
Il y a eu, en fait, si tu veux, 2019, c'était un peu mon année. J'ai eu mon premier titre de championne de France. Sauf que je remporte contre la six-tube championne du monde.
Mais le disons-je.
C'est ça. Et un mois après, je suis sélectionnée, tu sais, le fameux championnat RBSS
donc
où ils prennent que les 8 meilleurs. Donc je vais à Miami. Donc incroyable, déjà pour moi, c'est bon. Moi, je peux repartir. Je suis à Miami, je suis contente. Sauf que non, je veux gagner. Et il se trouve que durant les tirages au sort des poules, on met 4 filles d'un côté, 4 de l'autre. Je me retrouve dans la poule avec Mélodie, donc la championne du monde 6 fois, et la championne du monde en titre.
D'accord.
Petit problème de tirage. Du coup, bon, pas d'excuses.
C'est totalement aléatoire. T'as pas de...
Non, il y a juste eu un petit problème dans l'orga, mais c'est pas grave. Pas d'excuses. Okay. En tous les cas, si je voulais être championne du monde, je devais gagner tout le monde.
Donc, dans tous les cas,
aucune excuse sur ça. Mais c'est vrai que j'étais pas dans la meilleure poule, disons. Et il se trouve que contre Mélodie, c'est ma première battle. Je monte sur scène et j'ai perdu mes moyens. J'ai perdu contre elle. Après, j'ai fait une victoire et après, je suis tombée contre la championne du monde en titre, Agushka. Et là, j'ai perdu. Donc, ça s'est arrêté pour moi à ce moment-là.
Okay.
Mais j'avais quand même mes chances. Et du coup, ça m'a un peu dégoûtée. Mais ça m'a permis d'acquérir une force pour revenir cette année.
C'était ta première expérience.
C'était ma première expérience. Ouais. Et c'était incroyablement bien quand même, malgré ça.
Du coup, là, l'objectif maintenant, c'est d'être championne du monde.
Exact.
Parce qu'on parlait, on a parlé de donc des oui, quel est cet accent ? des huit meilleurs, en gros, ouais. Effectivement, dans ta discipline, chez les filles, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est rigolo, c'est assez proche du surf d'ailleurs, parce que dans le surf, c'est un peu comme ça aussi, c'est les 10, je crois, ou les 12 meilleurs.
Ok.
Toi, l'objectif, c'est d'être championne du monde. En France, il y a quand même une densité de nanas fortes.
Ah ouais, bah dans le top 8 l'année dernière, il y avait 3 filles. 3 ou 4
voilà,
sur 8.
C'est quand même hallucinant. Effectivement, bah, ça, tu vois, je ne le savais pas. Donc en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait... que là, maintenant, au niveau des nanas, étiez...
En France, on est pas mal.
Vous étiez pas mal. Chez les mecs aussi, mais j'ai l'impression que chez les filles, il y a un vrai élan depuis quelques années. Tu me dis si je me trompe, mais il y a un vrai élan du côté féminin pour la discipline du football freestyle. À quoi tu l'expliques, ça ? Pourquoi, là, sur les dernières années, vous avez émergé, et particulièrement les nanas, quoi ? Parce que moi, sincèrement, si tu veux que je te dise aussi la vérité, c'est qu'en allant regarder sur les réseaux sociaux, je suis toujours tombée sur les profils de freestyleuses et pas des mecs.
Bah, je peux t'expliquer ça, c'est que en France, les freestyleuses sur les réseaux sociaux sont très développées, dans le sens où, en tout cas, moi, que ce soit Paula que j'ai en tête, que ce soit Mélodie, que ce soit moi, on charbonne sur les réseaux parce que, justement, je pense qu'on a un peu toute la même le même état d'esprit, l'envie de montrer que c'est pas un sport de garçon et que voilà, ça existe plus, un sport de garçon, un sport de fille, c'est un sport pour tout le monde et que et les réseaux des filles en France freestyleuses sont bien développés. Je pense que c'est pour ça que tu es tombée sur ces profils-là.
Très probablement. Mm. Et même en tapant sur Internet, quand tu tapes juste sur Google, comme font les
ouais.
le béaba, tu tombes principalement, et les articles parlent principalement aussi des filles. Mm. Et je me suis dit,
c'est cool.
Ouais, c'est fou parce que...
Une petite victoire, hein.
Bah, carrément. Non, mais je trouvais que c'était aussi intéressant d'en parler avec toi parce que spontanément, le foot... Alors, on sort du football freestyle, mais le foot, c'est quand même malheureusement encore une discipline qui est extrêmement masculine, qui subit encore pas mal de clichés, etc. Le football freestyle, on pourrait se dire que c'est un peu la même chose parce qu'en plus, t'as l'aspect technique tout de suite... Alors les représentations, tu dis la maîtrise du ballon, la technique, machin, forcément, mec.
En vrai, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'il y a des gens qui se bougent pour que ça ne le soit plus. Typiquement, en 2019, je remporte mon premier titre de championne de France parce que je demande un mois avant à ce qu'il y ait une catégorie féminine. Il n'y avait pas de catégorie féminine. En 2017-2018, on participait avec les garçons.
Et ok.
Ouais.
Tout le monde participait
mixte.
Dans la même catégorie.
C'est ça,
ouais. Et après, il y a eu une...
C'est ça. Donc, on se retrouvait à 70 à participer. Il y avait des fois, on était 70, j'étais la seule fille à participer.
Ok. Et... Est-ce que tu as l'impression aussi un peu de contribuer du coup à cet essor du...
Honnêtement, ça fait peut-être...
Non, trop pas.
Meuf qui a la grosse tête, mais oui, clairement. Parce qu'il y a plein de filles en France, en tout cas moi que je connais, qui ont commencé le freestyle en tombant sur mes vidéos. Et ça me fait trop kiffer parce que moi aussi j'ai commencé grâce à un freestyler. Donc je sais exactement ce que ça fait. Et c'est trop bien de se dire que voilà, on ouvre des portes à des gens et qu'on leur permet de découvrir un sport qui nous passionne autant, quoi.
Et est-ce que toi, au tout début, quand tu disais que tu as commencé en regardant des vidéos de mecs, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit... Est-ce que tu as eu cette réflexion perso de se dire... De penser à ton genre en disant...
Jamais. Jamais.
Je galérais un peu à dire la question, mais...
Ouais, j'ai bien compris, mais jamais, parce que j'ai grandi dans un milieu très masculin. Moi, j'ai toujours été entourée de garçons, j'ai toujours eu des potes principalement masculins, etc. Et du coup, franchement, ça... Moi, ça n'a rien changé.
Tu t'es jamais
posé
la question
jamais.
De te dire « Ouais, je suis nana, du coup, je vais peut-être me taper des réflexions, des machins. » C'est jamais quelque chose qui
non,
t'est...
Non, et puis même si je m'en suis tapée, je crois que je les ai même pas entendues. Genre, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Parce que j'ai toujours été dans ce milieu-là, moi, et ça me plaît, ça me va très bien.
Ouais.
J'ai aucun souci avec ça.
T'as jamais fait la dissociation en fait entre mec, fille, pour
jamais.
Toi c'est exactement
j'ai
la
toujours
même chose.
Fait des sports avec des garçons. Quand je faisais du foot quand j'étais petite, j'étais dans une équipe principalement de garçons avant d'être dans une section féminine à 10 ans. Mais du coup, pour moi, c'est normal.
Et on t'a jamais fait comprendre que t'étais une fille à un moment donné dans...
Sûrement, mais je l'ai pas retenu. Parce que c'est un truc, je pense, que j'ai pas voulu retenir. Et du coup, ça m'a pas marqué.
Et tu penses que c'est ça finalement aussi qui fait que... Bah, à aucun moment tu t'es mis des barrières.
Clairement. Parce que du coup, c'est vrai que des fois, je reçois des messages sur les réseaux de jeunes filles qui me disent « J'aimerais bien faire du foot ou du foot freestyle, mais j'ose pas me lancer. » Et moi, dans ma tête, je me dis « Mais moi, à aucun moment, j'ai eu cette pensée-là.
Ouais. »
Et je me dis « Peut-être qu'en fait, c'est parce que ces personnes-là, elles ont des freins dans leur entourage, des gens qui leur disent « Bah non, t'es une fille, c'est pas pour toi. » Et du coup, forcément, je peux comprendre que des gens ont ce mode de pensée-là, mais c'est un truc que j'ai eu la chance de pas avoir, je pense. Et du coup, c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour parler à ces personnes-là et pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frein, justement, et qu'on soit tous d'accord pour se dire il y a rien qui est réservé aux garçons, rien qui est réservé aux filles. Et voilà, juste faites ce qui vous fait kiffer et sans vous poser trop de questions.
C'est dans une démarche de pédagogie,
ouais.
Presque maintenant.
Ouais, vraiment, pour le coup.
Et est-ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est vrai, quand on voit un peu vos battles, les compètes et tout, qu'il y a quand même vachement de bienveillance.
Ouais, honnêtement, le freestyle foot, déjà, c'est très niche dans le sens où on se connaît tous. C'est une grande famille. Et il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance, vraiment. Après, il y a toujours un ou deux profils, comme dans tous les sports. Hein. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est super bienveillant. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est une grande famille qui est juste au top, vraiment, pour le coup.
Tu disais, donc là, vous êtes 8 sur les championnats du monde.
Ouais.
Alors qu'il y a potentiellement une soixantaine de mecs. Est-ce qu'il y a quand même, à l'heure actuelle, de plus en plus de filles
oui.
qui se mettent à la pratique et juste qui, pour le moment, ne passent pas le pas des compétitions, en fait?
Oui, c'est le cas. Et puis même depuis que j'ai commencé, moi, mes premières compètes, c'était en 2016-2017. C'était sans but, c'était juste pour faire des compètes et pour essayer. Mais il y a énormément de progrès déjà sur les participantes, c'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment triplé en 3-4 ans. Là.
Ok, donc c'est énorme.
Ouais, donc ça se développe de plus en plus. Après, on va voir si ça continue à se développer autant, mais ça serait cool, en tout cas.
Yep. Du coup, il y a forcément aussi un sujet, tu t'en parlais tout à l'heure, forcément un sujet sur lequel on est obligé de parler, c'est les réseaux sociaux. Parce que très clairement, je le disais tout à l'heure, et tu le disais, c'est ton métier à l'heure actuelle. Et si tu en vis, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux.
Exact.
Grâce au contrat que ça génère, grâce
à la visibilité,
que du coup ça te fait. J'ai aussi l'impression que le football freestyle, alors toi, c'était très puissante sur TikTok. Toi, t'as 3,5 millions de followers, c'est juste monstrueux. T'as plus de 200 000 aussi sur Instagram, donc t'es quand même globalement hyper puissante sur les réseaux. À ton avis, pourquoi les gens kiffent tellement cette discipline-là? Pourquoi ça marche tellement, particulièrement sur une génération qui est quand même assez jeune, je pense? Qu'est-ce qui fait que les gens kiffent tellement et ont envie de suivre des profils comme ça? Parce qu'il y a toi, j'avais noté aussi, je crois que moi, une des premières, j'avais connu la discipline par Lisa Zimouche.
Oui.
Voilà, c'est, tu vois, c'est qui a, je crois, elle sur Insta, plus d'un million aussi d'abonnés. Enfin, c'est, vous êtes monstrueuse.
Lisa est très monstrueuse.
Et bah, toi aussi maintenant sur TikTok. Comment est-ce que t'as une explication aussi à ça? Pourquoi les gens
Déjà, on a l'avantage que ce soit que nos vidéos soient internationales dans le sens où y a pas de parole, donc tout le monde peut être touché par ça. Et comme je t'ai dit au tout début du podcast, il y a beaucoup de gens qui lient ça au foot, et il faut pas oublier que le foot est un des sports les plus populaires, si ce n'est le plus populaire. Et du coup, les gens, ils kiffent parce qu'ils se disent, vu qu'il y a beaucoup de gens qui lient ça au foot, ils se disent, mais attends, mais sur le terrain, ils font pas ça, les gens. Et tu sais, du coup, ça les intrigue. Déjà, il y a cette partie-là, du coup, des gens qui suivent parce qu'ils kiffent voir des gestes techniques avec ce ballon. Et je pense que moi, la deuxième partie, c'est ce qui m'a fait commencer, c'est que c'est un sport très esthétique. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça super beau, et j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit, non, c'est pas beau ce que tu fais.
Ouais.
Genre, quand on s'entraîne dans la rue ou quoi, et qu'il y a des passants qui s'arrêtent, la première chose qu'ils nous disent, mais c'est trop beau ce que vous faites, vraiment. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que les gens, ils aiment bien, honnêtement. Hein. Je sais pas. Moi, je pense que c'est ça.
Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, quand ils les échanges que t'as avec tes followers
Ça dépend des mentalités. Il y a des gens qui vont dire, ça sert à rien sur un terrain. Donc ça, c'est les gens à qui on répond pas. Et après, il y a des gens qui disent, mais c'est beaucoup d'entraînement, je connaissais pas, j'avais jamais vu. Tu sais, les gens qui sont intrigués, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui trouvent ça assez joli. Et après, t'as les gens qui savent, qui suivent, qui connaissent sur les réseaux et qui disent, je sais le travail que c'est. Et franchement, bravo. Je trouve ça fou ce que tu fais, Nani. Et ça, c'est trop cool.
Ouais, t'as trois catégories. T'as ceux qui relient ça au foot, forcément. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu vas aller faire des gens pendant un match va mettre des buts.
Il y a les machos aussi.
Ouais.
Va faire la vaisselle. Ça aussi, on l'a, des fois.
Ça continue, ça, quand même. Vous êtes sur les réseaux et tout.
Mais justement, c'est pour ça que tout à l'heure, quand t'as parlé de Facebook, j'ai rigolé. Parce que ça, c'est des commentaires que j'avais eu sur une vidéo Facebook qui avait explosé en France. Et du coup, qui avait fait, je sais pas, 6 millions de vues, mais uniquement en France, je pense, parce qu'il y avait que des commentaires français. Et j'avais fait une vidéo YouTube où je répondais à ces commentaires parce que ça m'avait choqué, parce que j'avais pas vu ces commentaires depuis très longtemps. Mais oui, il y en a, mais moi ça me fait rire. Enfin, c'est juste drôle, quoi.
En fait, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose. Alors, j'allais dire pas grand chose qui t'atteint, mais en tout cas dans ta discipline, que t'as genre un objectif, que tu sais où tu vas, que tu sais qui t'es. Et que finalement, en fait, toutes ces choses qui pourraient un peu venir sur ton chemin, ça t'atteint pas du tout.
Mais c'est comme ça dans la vie, pas que dans la discipline, dans le sens où je pense que dès que t'as des objectifs dans ta vie et que tu sais où tu vas et que t'es en accord avec toi-même, tu peux pas être atteinte par des trucs de ce genre, des commentaires de gens que tu connais pas et qui mettent ça sur des réseaux sociaux. En plus, franchement, je vois pas comment ça peut t'atteindre personnellement. Après, je sais que ça atteint certaines personnes, mais moi, c'est pas le cas.
C'est rigolo aussi parce que quand on regarde, alors je sais pas si rigolo c'est le bon terme, mais quand on regarde tes vidéos sur YouTube, on sent que maintenant t'es vraiment, pourtant t'as que 21 ans donc t'es hyper jeune, mais on sent que t'es déjà dans une démarche de passer des messages.
Ouais.
Peut-être un peu moins sur TikTok et Facebook parce qu'on est vachement sur l'image, mais sur YouTube que t'as envie d'éduquer les gens, t'as envie de faire passer des messages sur des chemins de vie et tout ça.
Alors, si je fais ça, c'est parce que... Ça, je l'ai jamais dit, je crois, en interview, d'ailleurs. Mais la Johanna d'il y a 3 ans, c'était pas du tout la Johanna d'aujourd'hui.
Ouais.
J'ai énormément travaillé sur moi parce que, de par ce que j'avais vécu, j'avais pas forcément un comportement respectable, on va dire. Genre, j'étais pas forcément la personne que je suis aujourd'hui. Et du coup, j'aurais adoré, moi, qu'on me dise ce genre de choses que j'essaie de dire sur YouTube, de trouver un truc qui vous fait kiffer, d'être positif dans la vie, de vous concentrer justement sur les bonnes choses et de pas trop vous focus sur le reste. Et j'aurais kiffé qu'on me dise ça, moi. Et du coup, c'est pour ça que je transmets ces messages, parce que moi, ça a totalement changé ma vie d'avoir cette vision des choses-là, en tout cas.
Qu'est-ce qui t'a fait avoir le déclic il y a 3 ans?
Waouh, beaucoup de choses. Des rencontres, déjà, des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont fait juste ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle j'étais. Et beaucoup de lectures aussi, en vrai. Beaucoup de lectures.
Du style?
Des livres sur le développement personnel, que je mettais en balle vraiment et où je me disais, c'est vrai que si t'as ce mode de vie, peut-être que t'es plus heureux dans ta vie. Et en fait, mettre en pratique et se rendre compte que c'est le cas, ça change vraiment tout.
Donc de te renseigner, te nourrir.
Ouais, juste apprendre qu'on peut vivre sans se focaliser sur le négatif H24, c'est cool. Parce que c'était vraiment ce que je faisais. Hein. Il pleuvait dehors, j'étais en mode, ah, il pleut dehors.
La vie, c'est de la merde.
Et c'est pour ça que c'est drôle, les gens qui m'ont connu il y a 3 ans et qui me voient maintenant, ils disent, ah ouais. Genre, l'opposé, vraiment, rien à voir.
Que le message, si t'avais un message vraiment à passer, et un truc, tu vois, l'interview n'est pas finie, mais que les gens devraient retenir quand ils écoutent cet épisode. Vraiment le truc pour toi qui est le plus important et la valeur ou le message que tu as vraiment envie de faire passer.
Je crois que c'est ce que j'ai dit à un pote une personne que j'ai rencontrée il y a pas longtemps pour un match de foot et qui m'a dit, moi, il y a un truc qui me passionne et j'ose pas me lancer. Et du coup, je lui ai dit, écoute, une vie, t'en as qu'une et genre vraiment, si t'as trouvé le truc qui te fait kiffer, te mets pas de frein et fonce. Même si ça peut échouer, n'y pense pas et juste fonce et essaye, parce que si t'es espoir, tu vas regretter toute ta vie, en fait.
Ouais.
Et donc, je pense que le message que je voudrais faire passer, c'est juste, si vous avez un truc qui vous anime réellement et qui vous fait kiffer, ben juste faites-le à fond et pensez pas au reste.
Non, il y a une phrase que t'as dit dans une de tes vidéos. T'avais dit, il faut pas avoir de plan B parce que ça nous détourne du plan A.
C'est une citation de Will Smith.
C'est vrai ?
Ouais.
Donc, du coup, ouais, tu vois, je l'ai noté parce que ça m'a fait... Ça m'a fait marrer, je me suis dit, je trouve que ça te représentait bien.
C'est le résumé de ma vie, clairement.
Mais t'as pas peur, justement, aussi de tout mettre sur le plan A ?
C'est-à-dire ?
Bah, je sais pas, tu vois, que... C'est sur des métiers qui sont assez éphémères aussi. Tu vois,
ouais,
c'est lié aux réseaux sociaux. Après, ta discipline, elle peut exister sans les réseaux sociaux, mais forcément aussi, maintenant, tout est lié à ça. C'est pas des choses auxquelles...
Ça serait te mentir, c'est-à-dire que j'y pense pas et que ça, ça me fait pas peur des fois. Mais je pense que si tu te focalises trop sur ça, sur le fait de te dire est-ce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, est-ce que ça peut échouer, je pense que t'avances plus. Et t'avances moins rapidement, en tout cas, du moins. Donc je pense que c'est un truc que j'ai en tête, j'y pense, mais ça me freine pas parce que j'ai juste envie de vivre le moment présent, et comme je l'ai toujours fait, en fait, au final. Hein.
Tu penses qu'il y a encore plein de choses à développer sur le football freestyle ?
100%, ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait, toi aussi, dans cette discipline-là ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour que... Bah, tu le disais, c'est quelque chose qui a pris de l'essor vachement sur les réseaux sociaux et tout, mais ça reste quand même une discipline qui est encore hyper niche. C'est quoi les next steps pour toi ?
Moi, déjà, j'ai mon objectif d'être champion du monde à atteindre. Et une fois qu'il est atteint, je vais plus passer du côté outside, dans le sens où je vais faire de la vidéo beaucoup sur le freestyle. Je vais continuer de travailler avec Foot Freestyle France, parce que c'est vrai que j'aide, du coup, le président sur les compètes, etc. Et le but ultime, pour moi, ça serait... Je veux être là quand le freestyle, ça sera au JO. Vraiment. Je veux voir ça de mes propres yeux, genre, vraiment.
C'était ma question d'après. Est-ce que tu penses que le football freestyle, un jour, sera au JO ?
Mais pour moi, ça a largement sa place. Mais largement. Sans comparer avec d'autres sports ou quoi, c'est un sport qui a tellement de valeurs, qui plaisent aux gens. Et en vrai, c'est pas compliqué à expliquer, en plus. Ça a largement sa place.
Moi, j'aimerais bien... que tu m'expliques aussi quelle est la différence entre quelqu'un dont c'est le métier, qui se produit, qui est un ou une professionnelle du foot freestyle, et les gens qu'on peut voir se produire dans la rue au chapeau, par exemple. Pour ceux qui sont déjà allés au Sacré-Cœur, ça doit vous parler, et qui font ça la plupart du temps par nécessité. Est-ce qu'il y a une différence, et quelle est la différence ?
Je vais répondre très simplement. C'est mon métier, mais je fais ça aussi. Ça s'appelle les street shows. Et il y a des gens qui font ça par nécessité, comme tu l'as dit, parce que c'est compliqué pour eux de trouver des événements ou parce que bah, du coup, les réseaux sociaux, soit ça les intéresse pas, soit ça marche pas. Parce que ça peut t'intéresser, mais ça peut aussi ne pas marcher. C'est pas facile de se faire une place sur les réseaux. Il y a de plus en plus de monde et dans le freestyle, en plus, on commence à être pas mal. Mais il y a donc la nécessité et il y a le kiff aussi. Les street shows, moi, quand je suis avec des potes, des fois, on se fait des délires. Je vais prendre un exemple. On était à Cannes un jour et on avait envie de s'entraîner. On s'est dit, en fait, on va s'entraîner en public, on va poser un chapeau et on va voir. Et au final, on s'est fait 170 euros en 2 heures. Et juste, c'est un kiff parce que tu te dis...
Le déj était payé.
C'est ça. Tu te dis, en fait, on fait ce qu'on kiffe et les gens, ils kiffent et ils donnent de l'argent, tu vois. Et du coup, au final, c'est... Après, nous, c'est plus sur le côté challenge, mais c'est vrai que les gens qui font ça par nécessité, c'est très respectable parce que c'est très, très dur à faire en vrai. Avoir l'attention et tout, nous, pour l'avoir fait plusieurs fois avec des potes, Moi, je sais que c'est un truc que j'arriverais pas à faire, en tout cas, je pense.
Du coup, j'ai une autre question qui peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais est-ce que finalement, le fait d'être une meuf dans cette discipline-là, c'est pas aussi un peu une opportunité?
Moi, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça parce que c'est un peu plus rare et plus impressionnant dans le sens où, un exemple bête, mais je suis en coloc avec un pote qui est freestyler aussi. Et en 2019, mon premier show, ça a été un truc avec lui où genre en gros, sur une tournée, il a proposé mon profil et le sien pour qu'on fasse des duos mixtes. Et du coup, le mec s'est dit, mais c'est trop bien. Comme ça, on va montrer qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Ils ont le même niveau. En plus, c'est top, tu vois. Et du coup, c'est ça l'avantage, c'est que une fille, du coup, ça impressionne beaucoup plus et forcément, les gens sont peut-être un peu plus friands de ça, je pense.
Et est-ce que dans ta discipline, en 2021, on peut encore créer de nouveaux mouvements? Est-ce qu'il y a des nouvelles est-ce qu'on peut faire de nouvelles figures? À quel niveau ça se passe? Est-ce que c'est dans la créativité, dans le flow? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouveaux gestes là qui ont été inventés récemment?
Il y a ça toutes les semaines. Vraiment, le freestyle, il y a pas de limite pour moi. Il y en a aucune. Et pour te donner un exemple, j'ai pas la notion du temps, mais je pense que ça fait 2 ans. Il y a un mec qui a fait 4 tours du monde. Donc, on connaît le triple, donc 1, 2, 3 avec une jambe. Lui, il a fait 4, 2 avec une, 2 avec l'autre. Et donc, c'est un truc, il y a 5 ans, tu disais ça, tu disais, mais non, jamais de la vie, ça arrivera, ça. Bah, c'est arrivé, il s'appelle Luca, il est italien, c'est un des meilleurs lowermen, c'est le meilleur lowerman du monde. Et on a Erland, un Norvégien qui est champion du monde depuis 4 ans et qui est un peu le mec imbattable, même si à Miami, il s'est fait battre par un Brésilien. Mais il est quand même imbattable dans le sens où il remporte quasiment toutes les compètes depuis 4 ans, et lui, à chaque compète, il nous sort 10 nouveaux gestes par round. Et il y a plein de mecs comme ça, comme Jesse ou quoi, qui sont très créatifs et qui arrivent encore à créer. Après, t'as des freestyleurs comme moi, on n'est pas trop dans la créativité, on est plus dans le côté technique et dans le côté flow, comme tu l'as dit tout à l'heure, du coup. Et t'as des gens très créatifs, limite, t'as des freestyleurs qui vont faire que inventer des gestes et qui vont avoir que leur propre style, tu vois. Et c'est pour ça que c'est intéressant les compètes, parce que t'as une partie créativité qui est notée. Et du coup, t'as des gens qui sont peut-être plus avantagés que d'autres sur ce point-là. Et c'est cool, du coup. Tout le monde a sa chance, en gros, quoi.
On peut dire que le football freestyle, c'est ta passion.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En quoi c'est passionnant?
Wow. Parce que c'est un truc que quand je le pratique, je pense à rien d'autre. Genre ma tête, elle est totalement vidée. Donc déjà, ça c'est très passionnant de faire un truc qui juste te fait kiffer et te fait penser à rien d'autre. Et il y a le côté développement de soi et le côté surpassement de soi, dans le sens où à chaque entraînement, tu vas pousser tes limites et tu vas essayer de faire toujours mieux, comme dans beaucoup de sports. Et je pense que c'est ça qui me passionne, moi. C'est le fait de voir que ma progression, elle est un peu infinie, dans le sens où même si c'est des toutes petites subtilités que les gens ne vont pas forcément voir, à chaque entraînement, moi, je vais progresser sur un truc. À chaque entraînement, je vais être plus à l'aise sur ça. Je vais apprendre un nouveau truc, une nouvelle variante, un nouveau combo. J'ai le cardio qui va progresser. C'est des tout petits trucs, mais que moi, je remarque et qui font que, bah, du coup, ça me passionne.
Du coup, là, j'aimerais bien te poser des petites questions qui sont un peu hors de tout ce qu'on s'est raconté, qui sont un peu décorrélées, qui sont des questions que nous, on pose aussi à chacune de nos championnes. La première question, c'est, est-ce qu'il y a un moment de sport dans ta vie qui t'a marqué? Alors, ça peut être un moment de sport que tu as vu à la télé, un moment de sport que tu as vécu, un truc qui a été... Ah, ça peut être positif, négatif, tu vois. Un truc qui a été hyper constitutif de ta personne.
Je dirais pas que ça a été constitutif de ma personne, mais j'ai eu un moment qui m'est venu en tête quand t'as dit ça. C'est 2006, quand Zidane met le coup de tête et que, et que du coup, on perd. Je me souviens avoir pleuré, et c'est la première fois que j'avais pleuré pour du sport. Et je m'étais vraiment dit, ah ouais, en fait, ça m'a vraiment touchée. Et j'avais 7 ans, je crois, 7 ans et demi. Et j'avais été mal pendant 4-5 jours après.
C'est vrai que tu t'es rendu compte que le sport, c'était générateur d'émotions de fou.
J'ai dit, c'est fou, pourquoi je suis dans cet état-là?
D'ailleurs, il y a une question que je t'ai pas posée et que je trouvais quand même intéressante de poser, mais est-ce que quand on fait du football freestyle, on est obligé de kiffer le foot?
Pas du tout, mais vraiment pas. Moi, honnêtement, j'ai eu une période où je kiffais à fond et je suivais beaucoup. J'ai eu une période juste après où je regardais plus du tout et limite ça me dégoûtait parce que okay. Bah, y a des comportements dans le foot qui sont pas du tout en accord avec ma personne, on va dire. Mais et là après pendant les compétitions Euro, Coupe du Monde, etc. Forcément je suis et il y a ce petit truc, tu sais, que je kiffais qui revient en mode j'aime bien quand même regarder des équipes jouer quand ça joue bien, etc. Mais non, j'ai plein de potes qui sont freestylers et qui s'en foutent totalement du foot. Très drôle. Et non, et il y a aussi une autre question qu'on nous demande souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir fait du foot avant pour faire du freestyle ? Et pas du tout. Il y a franchement 60% des freestylers qui n'ont jamais fait de foot avant de commencer.
Toi, t'as commencé, t'avais 15 ans ?
16, ouais. 16. 15 et demi, 16. Ouais.
T'avais fait un peu de foot avant, mais bon, très clairement, tu le dis depuis le début. Et je pense que c'est aussi un truc que le football n'a rien à voir avec le freestyle. On a l'impression que c'est une discipline, quand on te regarde sur les réseaux, c'est un truc, on te voit faire tes trucs avec une facilité déconcertante, tu dis « Ah waouh, ça a pas l'air très compliqué !» Et en fait, il y a aussi la notion de travail dont on n'a pas parlé, où j'ai l'impression que t'es quand même un peu une acharnée de travail et que tu t'entraînes énormément.
Ouais.
Est-ce que pour que les gens se rendent compte aussi, ça représente combien d'heures de travail, ou en tout cas, pour arriver au niveau auquel t'es maintenant, sur le niveau qu'on peut voir sur tes vidéos ?
Juste la partie freestyle ?
Ouais.
Alors les deux premières années je m'entraînais 5 à 7 heures par jour, donc okay. Matin et après-midi.
Tu faisais des journées de travail.
Je faisais des journées d'entraînement, mais je voyais pas ça comme de l'entraînement à cette époque-là, je voyais ça juste comme un kiff. Tu sais, c'était un truc, c'est comme, je vais prendre un exemple, il y a des gamers qui jouent à des jeux vidéo pendant très longtemps et souvent on leur dit mais ça te sert à quoi ? Mais c'est juste qu'ils kiffent, tu vois, et ils voient pas le temps passer parce qu'ils font un truc qu'ils kiffent, et c'était exactement pareil avec le freestyle. Et vu que j'étais très jeune, il n'y avait pas encore cet aspect physique de « Ah, j'ai une courbature, là, je peux pas !» Parce qu'à 15-16 ans, tu te fais un claquage, le lendemain, tu cours comme une gazelle, t'as rien du tout. À 21 ans, c'est pas pareil. Mais du coup, je pouvais m'entraîner 5 à 7 heures par jour tous les jours, il n'y avait aucun souci. Et juste, j'étais contente de ma journée, tu vois, j'avais fait un truc que je kiffais. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, vu qu'il y a la création de contenu à côté et qu'il y a pas mal de travail aussi à côté, c'est plus du 2 à 3 heures par jour, et en période de compétition j'essaye d'aller jusqu'à 4-5.
Voilà. Ok, donc si on fait calculer en 6 ans le nombre d'heures que t'as passé,
je crois que je suis à 15 000 heures d'entraînement là, en vrai, depuis le début, ouais. Pour te donner un petit exemple, il y avait des périodes de ma vie où je m'entraînais sous un lampadaire et en gros la nuit, parce que j'allais en cours, c'était juste avant que j'arrête les cours parce que je voyais que c'était problématique d'allier les deux. Et il y avait une sorte de lampadaire avec, tu sais, un petit interrupteur. Je l'allumais, ça durait 30 secondes. Du coup, si je faisais un combo 35 secondes, j'étais dans le noir les 5 dernières secondes. C'était cool. Hein. Mais cette période, je l'ai connue, hein, vraiment. Où, genre, juste, j'avais besoin de mon ballon et peu importe l'endroit, je m'en foutais totalement. Yona est très têtue. Et il se trouve que Yona, elle se fixait un objectif ou deux en début de séance. S'il n'était pas atteint, elle ne l'arrêtait pas. Donc, il pouvait être minuit, 1h, 2h, tant que le
truc. T'es la pire coach du monde pour toi-même, quoi.
Exact. Vraiment. Au début, j'étais. Tu sais que je suis encore en train de travailler sur ça après 6 ans. Sur le fait d'écouter mon corps et de ne pas faire des sessions de 7 heures parce que je me suis dit un truc en début de séance que je n'arrive pas à faire. C'est très compliqué. Je suis très têtue avec moi-même et si je n'arrive pas à faire mon truc, ça peut durer très longtemps.
Borné.
Ah oui, j'ai déjà fini des entraînements blessés et tout, juste parce que l'ego, quoi. Je dois réussir. En sachant qu'il y a eu très peu de off, hein. Vraiment. Je crois que la plus longue pause que j'ai prise, c'est une semaine ou deux, quoi.
Ok.
Sans toucher de bon.
Tu vois, pareil, je trouve que c'était important de le mettre en avant parce que pour montrer que c'est un vrai métier, quoi. C'est un vrai métier, que ça te prend des journées de travail classiques, sauf que voilà, c'est pas parce que t'es derrière un bureau et que t'as un ballon au pied que c'est pas légitime.
Surtout que là, il y a deux métiers du coup. Il y a la créa de contenu plus le freestyle. Donc, mais c'est cool.
T'as des journées bien remplies, quoi.
Moi, j'aime bien.
Alors, ma dernière question. Alors, juste avant, je voulais quand même te poser la question, parce qu'il faut forcément te demander quel est ton joueur préféré. Ça, c'est... Ou ta joueuse, d'ailleurs. Ton joueur, ta joueuse, parce qu'on ne va pas faire de distinction.
Joueuse, elle ne joue plus. C'était leur boulot.
Ok.
Que je kiffe vraiment, que ce soit dans la mentalité ou même dans sa manière de jouer. Et mec, j'hésite entre deux. Hein.
Tu peux dire les deux.
Ouais, Ronaldinho et Messi, je dirais. Ok. Maintenant... Mais Messi God quand même.
Ah ouais ?
Ouais.
Pour toi, c'est...
S'il y a un mec que je dois rencontrer un jour dans le foot, c'est Messi, ouais.
Ok. Trop bien. Et d'ailleurs, et autre question, mais si tu devais donner... alors, ça va peut-être rejoindre, tu vas peut-être dire les mêmes noms, mais un joueur qui est le plus chaud en freestyle, un joueur de foot...
Bah, Ronaldinho, en vrai. Hein.
Ouais.
Mais d'ailleurs, petite anecdote, parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant, mais Ronaldinho a contribué à la création du freestyle, hein, clairement. Parce qu'il avait fait les pubs Roga Bonito de Nike en 2005-2006, il me semble. Et y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de resellers qui ont commencé grâce à ces pubs. Donc ouais, il est en partie... il le sait, parce qu'il y a beaucoup de resellers qui ont échangé avec lui, et du coup, il est au courant que le freestyle foot tourne un peu grâce à lui. Et enfin, en partie. Et après, autre joueur technique, j'aurais dit Maradona, en vrai.
Ouais.
Paix à lui. Mais,
Et dans les joueurs en activité ?
Pogba. Pogba, mais oui, à fond. Il a fait un double tour du monde. C'est le seul joueur de foot qu'il a fait, d'ailleurs.
C'est vrai ?
Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Sans trop s'entraîner, en plus.
Trop fort. Ouais. Et du coup, ma dernière question, qui est la dernière question avec laquelle on clôture toujours le podcast, c'est si tu devais donner une définition de ce qu'est une championne, tu dirais quoi ?
Quelqu'un qui sait faire des sacrifices et qui sait se concentrer sur ses objectifs, sans trop s'en détourner, j'ai envie de dire, mais qui arrive à trouver l'équilibre entre les objectifs et s'acharner, et aussi savoir écouter son corps et savoir quand il faut faire des pauses et quand il faut avoir des moments... profiter entre guillemets et pour se ressourcer pour justement repartir encore plus fort et quelqu'un qui du coup atteint ses objectifs au final, voilà, simplement.
Très bien, et dernier petit mot, si tu devais essayer, alors pas convaincre parce que j'aime pas ce mot, mais en tout cas vraiment inciter les gens à aller regarder ta discipline et à se renseigner et aller voir déjà dans un premier temps tes vidéos, voir un peu à quoi ça ressemble, s'ils ont écouté ça et qu'ils se rendent pas compte, qu'est-ce que t'as envie de leur dire, qu'est-ce que t'as envie de dire pour prêcher pour ta paroisse du foot freestyle.
Je reprendrai ta phrase de tout à l'heure en disant que je dégage des messages vachement positifs et du coup que ça peut être cool même si la discipline vous intéresse pas. Mais après, je dirais que, voilà, comme je l'ai dit, la discipline est quand même très esthétique et ça peut plaire à tout le monde. Et en plus de ça, à côté, je suis passionnée de vidéos. Donc, je pense que mes vidéos sont assez cool dans le sens où j'essaye de faire des trucs qualitatifs. Donc, venez. venez voir ce que je fais, on est bien.
Ouais, voilà. Et n'hésitez pas à aller voir ce que tu fais sur les réseaux TikTok, Insta,
Yoana
YouTube.
Freestyle.
Yoana Freestyle, c'est trop bien. Et moi, j'avoue que j'étais hyper impressionnée et que ça m'a limité. Franchement, je te dis, je te dis pas de conneries.
Tu vas te mettre au freestyle ?
Alors, je vais peut-être pas me mettre au freestyle. Je vais peut-être pas me mettre au freestyle, mais franchement, ça m'a donné envie d'essayer.
J'ai sorti un tuto sur Instagram hier, si tu veux.
C'est vrai.
Tu peux aller voir. Il y a trois gestes de base. C'est en plus.
Très bien. Écoute, voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent se mettre aussi au freestyle, maintenant on pourra se mettre au freestyle grâce à des femmes et ça c'est cool aussi.
Ça c'est très cool.
Et pas forcément que grâce à des mecs. Et voilà, et c'est important de le dire. Et puis, pourvu que le freestyle dans sa globalité se développe de plus en plus et puis qu'il y ait de plus en plus de nanas qui s'y mettent aussi parce que c'est vraiment une discipline qui est hyper cool.
Ouais, j'espère aussi.
Voilà. Merci beaucoup Yoana en tout cas pour ce petit moment.
C'est très cool.
Et puis écoute, à une prochaine et puis je te souhaite d'être championne du monde.
Je touche du bois. Merci beaucoup.
Ça va, il y a du bois en face. Très bien, merci beaucoup. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.